C'est quelque chose qui n'était vraiment pas visible dans le texte de la Torah, que pour Yitzhak Avinu, il n'était pas complètement évident que en tout cas peut-être seulement dans son subconscient, que les brachot allaient arriver chez Esav. Et le Midrash s'était appuyé pour construire cette idée sur le fait que quand Yitzhak a donné l'ordre à Esav d'aller de lui ramener du gibier pour qu'il mange quelque chose qui lui fasse vraiment plaisir avant de lui donner sa bénédiction, quand Yitzhak lui a demandé de lui ramener du gibier comme il avait l'habitude de le faire, évidemment qu'il n'était absolument pas nécessaire de lui dire de s'occuper de son arc et du carquois de ses flèches. Évidemment qu'un chasseur, a priori, il prend ses armes pour aller chasser. Et donc, puisque Yitzhak a fait cette déclaration, il a dit ces choses-là, qui sont totalement redondantes, en fait. Alors, le Midrash a été à l'écoute des termes que Yitzhak Avinu a utilisés pour l'arc et le carquois. Et il a entendu dans le carquois, dans le mot qui est utilisé pour le carquois, il a entendu quelque chose. Le terme qui est utilisé, c'est un terme qui commence par deux lettres. Tav et Lamed. Teliecha, tu commences par Tav et Lamed. Et Tav, Lamed, ça fait Tal. Et ça sonne comme le début du mot Talouï. Talouï veut dire suspendu. Et donc le Midrash a entendu que les brachot dans l'esprit d'Itsrak, ces brachot qu'il voulait donner à Esav, les brachot en question, elles étaient suspendues, et le Midrash avait dit, vous vous souvenez, le Midrash avait dit, ça veut dire que les brachot sont suspendues et elles arriveront chez celui qui en sera le plus digne. Quelque chose qu'on n'entend pas du tout dans le texte de la Torah. Mais qu'on entend à partir du moment où Teliecha est un mot superflu dans le contexte, alors on n'a pas trouvé dans la totalité du mot, on n'a pas dit que carquois en tant que tel voulait faire référence à quelque chose d'autre, mais du coup, le Midrash, il a utilisé les lettres qui ont été utilisées pour fabriquer le mot. Carquois en hébreu, le Tav Lamed. Et bon, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, le Midrash a dit quelque chose d'encore un peu plus étonnant. Il a entendu dans le terme qui est utilisé pour Keliecha, pour l'arc, il a entendu la notion de cli. Et avec un passouk qui est dans le Sefer de Daniel, et Daniel c'était un intendant de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire ça fait référence à la Babylonie. Et du coup, le Midrash a utilisé tous les termes pour trouver dans ce que Yitzhak a dit une allusion aux quatre exils, à l'exil de Babylonie, à celui des Perses et des Mèdes, celui de Yavan et celui d'Édom. Et donc le Midrash a dit que il y avait quelque chose concernant justement ces quatre exils dans l'ordre que Yitzhak a donné à Esav d'aller lui chercher à manger avant de lui donner les bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire avant d'avoir la bénédiction. Et donc, le Midrash va dire, voilà, ben, ces exils sont nécessaires avant d'arriver à la Géoula finale. Et donc, il y a dans cette démarche de Yitzhak, de voulant donner les brachot à Esav, il y a cette suspension qui fait que c'est pas si sûr que cela, que c'est Esav qui va les recevoir, c'est le plus digne des deux. Et il y a quelque chose avec cette bracha, que cette demande qu'il fait à Esav, qui a à voir avec les exils, les quatre exils du peuple avant du clan d'Israël, disons qu'avant la Géoula finale. Donc vous savez, c'est ce qu'on avait vu, et on avait essayé d'expliquer un petit peu surtout le lien avec les exils. Alors, il n'y a pas de. Le Midrash ne va pas plus loin, à ma connaissance. J'avais essayé d'expliquer que en utilisant, disons, une hypothèse de travail, quoi, qui est que je ne pense pas que Yitzhak ne savait pas qui était Esav. Je pense que Yitzhak savait qui était Esav, mais que la relation qu'il avait avec lui, c'était une relation qui pensait, qui était construite sur le fait que Yitzhak pensait que c'est vrai que Esav, pour l'instant, il n'est pas vraiment un très bon sujet, mais que si on l'accompagne, si on le met pas à l'écart, si on le soutient, etc., peut-être est-ce qu'il va devenir quelqu'un de tout à fait acceptable et qui va pouvoir jouer le rôle que Yitzhak Avinu voulait qu'il joue. Pourquoi est-ce que Yitzhak Avinu avait une idée du rôle que Esav devait jouer? Yitzhak Avinu pensait que puisque il a eu des jumeaux, il pensait que ceux qui allaient s'occuper de la génération après lui, ben, ce sera ses jumeaux, ce sont ses enfants. Je vous rappelle que la relation de Esav avec d'éventuels enfants, c'est la même que celle de Rivka. Chacun d'entre eux disait, je veux des enfants, mais je veux avec ce conjoint-là. Yitzhak dit, je ne veux d'enfants qu'avec Rivka. Et Rivka disait, je ne veux d'enfants qu'avec Esav. D'accord, on ne va pas amener encore une autre femme comme les autres avots vont le faire. Abraham comme Yaakov vont avoir plusieurs femmes. Yitzhak n'en aura qu'une seule. De même, Yitzhak, il n'a qu'un seul nom, alors les autres ont plusieurs noms, etc. Yitzhak, c'est très très précis son affaire. Et lui, donc, il entend, voilà, il se trouve que au lieu d'avoir un enfant, j'en ai deux, mais c'est des jumeaux. Eh bien, ils vont travailler ensemble. Et comme ils ont des natures différentes, donc des capacités différentes, on va leur faire jouer à chacun un rôle différent dans le duo qu'ils vont travailler ensemble. Et donc, quand il lui donne la bracha à Esav, il donne la bracha à Esav pas parce qu'il veut pas la donner à Yaakov. C'est que, étant donné que dans son projet, c'est Esav qui est en charge de l'intendance, si vous voulez, et que donc Yaakov va être celui qui va développer la Torah, et Esav celui qui va la faire connaître, qui va la répandre, etc., et qui va s'occuper effectivement de l'intendance aussi. Alors il donne la bracha à Esav, mais c'est une bracha qui va bénéficier à Yaakov aussi dans son idée. C'est juste que Rivka sait par prophétie que Esav ne jouera pas ce jeu-là, qu'il va prendre, le cas échéant, la bracha pour lui tout seul, ce qui aurait comme conséquence que Yaakov n'aurait rien, avec rien du tout, on ne peut pas vivre, et donc le clan d'Israël serait complètement perdu, le clan d'Israël ne pourrait pas exister. Donc il y va de l'existence même du clan Israël que ces brachot n'atterrissent pas chez Esav si on sait, quand on sait qui est Esav. Ce que Yitzhak n'avait pas compris, mais qui comprend. Yitzhak, c'est quelqu'un qui, bon, il a entendu la leçon. Quand il comprend que avec qu'il s'est passé quelque chose, qu'il s'est fait rouler, etc., eh bien, il dit, bon, Gambaruchie, donc cette bracha que j'ai donnée par erreur à Yaakov, qui par conséquent pour Yaakov ne vaut absolument rien. Bon, une bracha qui n'est pas donnée volontairement, bon, c'est rien du tout. Mais maintenant il valide l'opération. Il dit Gam Baruch Yeh. Quand je valide cette bracha que j'ai donnée aujourd'hui, je comprends, je la donne vraiment à Yaakov. Le problème, c'est que Yitzhak comprend maintenant que Esav ne va pas jouer le rôle que lui voulait qu'il joue. Alors, si Esav avait joué le rôle que Yitzhak voulait qu'il joue, alors la démarche d'Avraham Avinu, qui a proposé que ce soit son peuple ou ses descendants qui fassent le travail qui normalement incombait à l'humanité tout entière, le travail que Adam Harishon aurait fait, qu'il n'a pas fait, qui est devenu le travail de l'humanité tout entière. Et l'humanité, eh bien, elle a échoué, ça a donné le Maboul, elle a rééchoué, ça a donné la tour de Babel. Et à ce moment-là arrive Avraham qui dit, mais moi, je vais essayer de le faire. Il va pas le faire pour lui tout seul. Lui, il va faire tout le travail, mais quand il aura réussi, alors, ça vaudra pour l'humanité tout entière. Mais il faut quand même que l'humanité soit d'une certaine manière associée, même de façon assez lâche, assez acrobatique, un petit peu au Bnei Israël, d'une certaine façon. Alors, ce qu'il pensait, c'est que quand on avait Essav, qui représente tout le reste du monde, et Yaakov, s'ils avaient travaillé ensemble, c'était fait. Mais si Esav ne travaille pas, il faudra bien que Yaakov trouve des éléments qui fassent le lien entre lui et les autres peuples, pour que sa démarche, la démarche de Yaakov, qui est l'aboutissement de la démarche d'Abraham, que cette démarche soit une démarche pour l'humanité tout entière. Alors, c'est ça que le Midrash nous dit. On va en passer par les exils, les quatre exils. C'était ou bien on passe par Esav, ou bien on passe par les exils dans les peuples dont Esav est le patron, lui et Ishmaël sont les patrons des Shivim ou Mot, des 70 peuples. Ils représentent les 70 peuples. Et si on comprend que ça doit fonctionner comme ça, alors on comprend en particulier la chose suivante. Quand Hachem va demander, va ordonner à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu va refuser. Il va refuser, il va résister pendant toute une semaine. Ça va lui coûter très cher d'ailleurs. Mais une des raisons pour lesquelles mon cher Abbé ne veut pas aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, c'est la suivante. Vous vous souvenez de l'année dernière, on va le revoir cette année, que quand Hachem lui a dit, tu vas sortir les Bnei Israël, tu vas aller dire aux Bnei Israël que voilà, ils vont sortir d'Égypte. Alors, mon cher Rabbeinu a dit à Hachem, mais quand je vais venir, ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je vais leur répondre? En d'autres termes, quel nom divin est-ce que je vais présenter? Alors, Hachem a dit, le Midrash dit que Hachem lui a dit, je sais très bien que ton problème, c'est pas la question qu'ils vont te poser, c'est que c'est toi-même qui veux savoir quel est mon nom. Ok, ceci étant mis en place, mon nom c'est Eke Asher Eke. Je serai qui je serai. Vous savez bien que c'est traduit systématiquement par les goïms, par je suis qui je sois, qui je suis, alors que c'est une faute de traduction grossière, puisque Eke c'est un futur. Eye, je serai. Alors qu'est-ce que, une des lectures de ce nom divin, qu'on n'utilisera plus jamais par la suite, va complètement disparaître, alors que c'est le nom divin sous lequel Hachem s'est présenté à Moshe Rabbeinu. Il va être complètement remplacé par le tétragramme ou par d'autres noms, mais lui, on ne le revoit pas. Alors, une des lectures de ce Eke Asher Eke, ça veut dire, dis-leur que je serai avec eux dans les exils ultérieurs, comme je suis, comme je serai avec eux dans cet exil-là. Mon cher Rabbeinu dit, ben non, ça, je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas aller dire au Bnei Israël, écoutez, vous allez sortir d'Égypte, mais rassurez-vous, bon, Hachem, il y aura d'autres exils, ne soyez pas tristes, il y aura encore d'autres exils, je ne peux pas leur vendre ça. Alors Hachem a dit, ok, alors tu leur diras seulement, je serai avec eux dans ce galout. En fait, ce que Moshe Rabbeinu voulait, en disant je ne vais pas y aller, il a dit à Hachem, au lieu que tu fasses un miracle, et que tu fasses sortir maintenant les Bnei Israël qui n'ont pas de mérite, ils sont idolâtres exactement comme les Égyptiens, et tu vas artificiellement les faire sortir de là, donne-leur plutôt la force pour résister, pour tenir le coup, encore 190 ans, pour aller de 210 à 400, qui était la durée dont Hachem avait parlé à Avraham Avinu. Et qu'à ce moment-là, ils vont sortir, et il n'y aura plus jamais d'exil. Plutôt que de les sortir prématurément, et qu'il faille avoir des exils par la suite, parce qu'on n'a pas complété le temps d'exil en Égypte. Et Hachem a refusé. Alors avec ce qu'on vient de dire, on comprend très bien pourquoi Hachem a refusé. Parce que la suite du refus, enfin du fait qu'Essav ne va pas jouer le jeu, on est obligé d'en passer par l'autre solution qui est d'aller récolter quelque chose, une espèce de contribution des Omot HaOlam au travail des Bnei Israël. Et cette contribution, elle se fait par le biais des convertis. C'est-à-dire, il y a cette théorie de la brisure des vases. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une très 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 grande lumière qui devait être contenue dans des vases, mais ces vases ont éclaté. Ils n'ont pas été capables de contenir tant de lumière. Et cette lumière s'est répandue sous forme d'étincelles qui sont arrivées n'importe où.
Je peux poser une question?
Partout.
Je peux poser une question?
Non, pas tout de suite, mais vous pourrez la poser plus tard. Et ces étincelles sont arrivées partout. Ces étincelles, en fait, il s'agit de les récupérer. Il s'agit pour les Bnei Israël de récupérer toutes ces étincelles. Mais le clan Israël ne peut pas aller les chercher lui-même parce que ces étincelles sont enfouies dans la culture de tous ces peuples dans lesquels les Bnei Israël ne peuvent pas entrer sans en être négativement affectés. Mais par contre, les gens de ces peuples-là, eux, qui sont nés dans cette culture-là, eux, ils ont de quoi résister. Et si eux récupèrent ces étincelles et qu'ensuite ils se convertissent, ils vont ramener, quand eux circulent et arrivent dans le clan Israël, ils ramènent aussi avec eux ces étincelles. Mais comment est-ce que ces gens-là vont avoir envie de se convertir, il faudra bien qu'ils entrent en contact d'une manière ou d'une autre avec l'Ebné Israël. Ça va se faire par le biais du galout. Donc, une des explications du galout, c'est le fait d'exposer les valeurs de la Torah d'une certaine manière aux différents peuples et générer ainsi quelques personnes qui vont ramener des étincelles. Cette théorie des étincelles, elle est à l'œuvre, par exemple, quand on dit, au moment de la sortie d'Égypte, c'est marqué que les Bnei Israël veinatzlu et Mitzrayim. Les Bnei Israël, alors Rashi explique, les Bnei Israël ont laissé l'Égypte comme une nasse à l'intérieur de laquelle il n'y avait plus aucun poisson. Ça veut dire les Bnei Israël ont sorti toutes les étincelles qu'on pouvait sortir de l'Égypte. Et par conséquent, on n'a pas de raison d'aller en Égypte, parce qu'on n'a rien à y chercher. Donc la raison pour laquelle on ne va pas en Égypte, comme ça la Torah, d'une certaine manière, les gens ont pris l'habitude, Hachem a dit, vous n'irez plus vous installer en Égypte, c'est parce qu'il n'y a rien à chercher là-bas. Toutes les étincelles égyptiennes, on les a déjà chez nous, par le biais du séjour des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Et donc, ça, c'était dans la demande, en quelque sorte, qu'Hachem a faite à Esav. Ou bien, je veux que tu joues un certain rôle. Ça, c'était le début, il le joue. Il va apporter à son père la nourriture que son père lui demande. Il va même respecter les règles que son père lui a imposées. Il va pas voler, etc., pour cette nourriture. Mais comme il joue pas la suite du rôle, comme il va pas, s'il reçoit les bénédictions, il refuse de jouer, donc il est plus digne de recevoir ces bénédictions. Il ne peut pas les recevoir puisque il les prendrait pour lui. Il y a son ego qui va prendre les bénédictions et donc il va pas les partager avec Yaakov. Donc il peut pas recevoir les bénédictions. Dans quelle mesure Yaakov va recevoir ses bénédictions? Il va aussi en faire profiter. Alors les Bnei Israël dans leur galoute, ils vont aussi faire profiter les goyim de certaines choses. Ça, c'était ce qu'on a, je crois, vu la semaine dernière. Alors, pourquoi est-ce que Yitzhak dit à Esav, tu m'amèneras du gibier et tu vas en faire ce qu'ils ont traduit ici dans le verdier, prépare-moi des mets succulents. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut? Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours très dérangé quand à lire ce texte. Je me disais toujours quoi, notre patriarche Yitzhak, tout ce qu'on dit quoi, c'est qu'il aime bien manger. Ça me paraissait un peu difficile à accepter. Le Midrash ici, il dit, on parle de manger, d'accord? De manger quelque chose qui est bon. Alors, Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, il y a trois choses qui sont dites du Etz Hadat Tovra du Gan Eden, cet arbre dont on ne devait pas manger les fruits, du Gan Eden. Ava, quand elle a vu le fruit, elle a vu qu'il était bon à manger, beau à voir, et qu'il accroissait l'intelligence. Tout ça, c'est dit dans un seul verset. C'est marqué que la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est-à-dire première chose qu'on a dite, c'est bon à manger, agréable à la vue, c'est-à-dire beau à voir, et précieux ce qu'il rend intelligent. Il accroissait l'intelligence d'une certaine manière. C'est plutôt que simplement accroître l'intelligence, ça veut dire que vous allez être comme le Nachash l'a dit à Chava, parce que c'est seulement après que elle a entendu dire le Nachash que si elle mangeait ce fruit-là, elle allait devenir un dieu. Bon, il leur a dit que si Hachem vous a interdit de le manger, parce que lui, il en a mangé, c'est pour ça qu'il est Dieu, et si vous en mangiez, si vous en mangez, vous serez aussi des dieux. Et ça, l'être humain, à peu pratiquement tous les êtres humains qui réfléchissent, d'une certaine manière, tout le monde veut être Dieu, ça vient du fait qu'on est à l'image d'Hachem. Et donc on veut l'être. On veut être tout-puissant, enfin tout. Ce n'est d'ailleurs que quand elle a entendu, comme je vous dis, le Nahash parler de vous allez être des dieux, que le fruit est devenu tout à coup bon à manger, bel à boire, bon à voir, et va nous donner quelque chose d'intelligence, etc. Alors, le Midrash dit, c'est la même chose pour Yitzhak quand il dit des mets succulents, c'est comme c'est bon à manger, bon à voir, etc. Ce serait ça que Yitzhak recherchait en quelque sorte dans cette. Alors, en fait, il faut comprendre un petit peu différemment. Le Midrash, lui, dit que quand je voyais, dit Yitzhak, alors je prenais du plaisir de ce que je voyais. Maintenant que je vois plus, alors je n'ai plus de plaisir que, oui, on traduit par olfactif. Donc c'est les autres sens qui peuvent me donner de la jouissance. Ce que Shlomo HaMelech dit aussi d'ailleurs. Qu'on mange aussi avec les yeux, comme on dit. En fait, le Rav Volbe, il avait l'habitude d'enseigner que quand on doit faire quand on veut faire quelque chose dont on peut, en réfléchissant, dont on comprend que le Yetzer Hara ne voudra pas qu'on le fasse. Donc il va nous mettre des bâtons dans les roues. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut négocier avec le Yetzer Hara. Il faut céder au Yetzer Hara quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'interdit. Et en l'occurrence ici, Yitzhak cède. D'accord? Ok, je vais manger en essayant de prendre du plaisir à la nourriture. Je ne vais pas manger pour avoir de la force pour servir Hachem. Mais je vais manger pour avoir du plaisir. Parce que comme ça, le Yetzer Hara, il est, d'une certaine manière, il est nourri. Et pendant ce temps-là, il va lui lâcher les baskets et Yitzhak Avinu va pouvoir donner la bracha, qui est une bracha qui vient d'en haut, de haut. Et sinon, il ne pourrait pas vraiment la donner, cette bracha. Et le Rav Volbe disait que c'est toujours comme ça. C'est quand on veut, si on n'a pas vraiment, on a de la difficulté à étudier, il faut trouver quelque chose à donner, un os à ronger en quelque sorte à au Yetzer Hara pour qu'il nous laisse faire la chose vraiment importante qu'on veut faire. Alors, on ne peut pas lui donner à manger quelque chose qui est, lui céder sur un point qui est interdit. Il faut céder sur quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, probablement, sans être d'un plaisir interdit. Alors, c'est ce que Yitzhak voulait faire quand il a dit qu'il voulait manger ses mets succulents. Donc voilà, on en est là. Yitzhak a envoyé Esav, il l'a envoyé dans les champs, c'est le Sde Edom, c'est référence au quatrième exil. Et ensuite, le Passouk nous dit que Rivka a dit à Yaakov, écoute à présent ma voix, mon fils, va au bétail, va au tson, je t'en prie. Rivka va maintenant intervenir pour construire un Yaakov qui va pouvoir recevoir les brachot, c'est-à-dire un Yaakov qui va se présenter comme celui auquel Yitzhak veut donner les brachot parce qu'il pense qu'il doit les donner à à Ésav. Donc il faut construire un Yaakov qui peut se faire passer pour Ésav. Alors comme Ésav doit ramener du gibier, pour que Yitzhak mange quelque chose qui lui fasse plaisir, Rivka, elle sait comment il faut préparer la viande pour que ça soit façon gibier, façon le gibier tel que Yitzhak l'aime. Alors pour ça, il va falloir commencer par aller chercher des chevreaux. On est chercher deux chevreaux. On sait par ailleurs qu'effectivement, il va y avoir du deux dans ce que Essav va ramener. Et elle lui dit, écoute à présent ma voix. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Voilà, je te parle, écoute ma voix. C'est la voix de sa mère. C'est en fait de la prophétie, en fait, ce qu'elle lui dit. C'est basé sur le fait qu'elle est prophétesse. Parce que d'où est-ce qu'elle sait ce que Yitzhak a dit à Esav? Bon, ça n'a pas été publié c'était pas sur la place publique. C'est une discussion qui a eu lieu en privé entre Yitzhak et son fils Esav. Comment Rivka le sait? Elle a écouté aux portes. Peut-être on ne pouvait pas écouter aux portes à ce moment-là. En fait, elle le sait par prophétie. Elle sait par prophétie ce que Yitzhak vient de demander à Esav. Et donc, elle a une stratégie pour que les brachot arrivent chez Yaakov. Alors, elle lui dit, tu vas au Tson. Tu vas au bétail. En vérité, elle devrait dire, tu vas à l'étable, on va pas au troupeau, au bétail. Mais en fait, ce terme-là, Rav Lévi dit, ça veut dire va et précède le clan Israël, en fait. Et ça fait référence à un passouk du Navi Yechezkel, qui dit, je ferai de mon troupeau de mon tson, le troupeau de mon pâturage, c'est-à-dire ce peuple va devenir mon peuple. Donc c'est comme ça que, ici, cette démarche-là, on est en train de construire le peuple d'Hachem. Elle lui dit, tu ramènes de là-bas deux bons petits chevreaux. Parce que c'est nécessaire de dire qu'ils sont bons. Pas besoin de le dire bon, non. Elle ne pense pas qu'il faut ramener des mauvais. Alors, elle lui dit, si tu les trouves, si tu en trouves deux qui soient convenables, qui sont convenables, c'est bien. Sinon, tu peux les prendre de ma dot. Alors on explique à Frelbo, je ne sais pas, il dit que, en fait, c'est Yitzhak qui s'était engagé, ici c'est écrit Yaakov, je ne sais pas pourquoi, c'est Yitzhak qui s'était engagé auprès de Rivka de lui fournir quotidiennement deux petits chevreaux. Et donc, tu peux les prendre, il y a les deux chevreaux qui viennent du troupeau d'Yitzhak qu'il me donne quotidiennement. Alors évidemment, quand on entend deux chevreaux, bon, c'est les chevreaux, c'est les petits, mais exactement comme quand on parle du veau d'or, en fait, c'était un taureau, c'était pas obligatoirement un veau. Et là aussi, on parle des chevreaux, c'est parce que pour le manger, c'est plus adéquat, mais c'est des chevreaux ou des boucs. Abrachia dit au nom de Sraf Helbo, le mot bon, il est complètement superflu ici. Mais ça veut dire que ce que je te demande de faire ici, c'est quelque chose qui va être bon pour toi. Ces chevreaux vont être bons pour toi est bon pour tes enfants, tes descendants. C'est bon pour toi parce que c'est le moyen par lequel tu vas obtenir les brachot, puisque tu vas fournir à Yitzhak de quoi pouvoir te donner les brachot. C'est aussi bon pour tes descendants, parce que, évidemment, dès qu'on parle de deux boucs, on pense aux deux boucs de Yom Kippour, dont l'un est le bouc émissaire et l'autre est le bouc qui va être un corban, avec l'Hachem. Donc, quelque part, il y a dans cette dimension, dans, il y a dans ce que sa mère lui donne, c'est pas seulement, c'est intéressant de voir qu'a priori, ces chevreaux, ils sont l'équivalent du gibier que Esav devrait rapporter, enfin, va rapporter à Yitzhak. Mais ces chevreaux, ils viennent pour lui permettre d'obtenir la bracha. Eh bien, il y a un an plus. C'est vrai que ça va lui faire permettre d'obtenir la bracha, mais ça a aussi un impact à beaucoup plus long terme, à quelque chose qui va accompagner les Bnei Israël de façon effective ou symbolique, etc. C'est-à-dire, en fait, toute la avoda de Yom Kippour, elle va tourner autour de ces deux, essentiellement autour de ces deux boucs. Tout les vidouim, donc tout le processus de la tchouva va être fait essentiellement sur l'un d'entre eux. L'autre va être chargé de toutes les fautes d'Israël et va être envoyé, le fameux bouc émissaire. Et donc, en même temps que ça va lui permettre d'obtenir les brachot, ça, en même temps, tout ce que font les avot a un impact sur toute l'histoire. Et donc, c'est intéressant de mettre en parallèle les brachot pour les médias et l'accaparat de Kippour pour toute l'histoire. Comme si dans les brachot, il y avait déjà une dimension, dans ces brachot, il y a la dimension de Kippour. C'est-à-dire que, en donnant à manger, en étant l'artisan, quelque part, en ayant une part dans les brachot qu'il va recevoir. Les brachot, c'est Yitzhak qui va les donner. A priori, c'est son travail. Là, on voit que son travail, il ne va pouvoir le faire. Il va le faire avec ses deux chevreaux. Ce qu'il va manger va lui permettre de donner la bracha. Donc, quelque part, ces deux chevreaux, c'est quelque chose qui a la puissance de donner la bracha, la puissance de donner l'accaparat au clan d'Israël. Cette capara que Yom Kippour donne toutes les années au clan Israël, c'est un truc absolument extraordinaire. C'est quelque chose qui est fondamental parce que ça a à voir avec la tshuva. Et la tshuva, on l'avait déjà dit d'autres occasions, la tshuva c'est quelque chose qui a été créé avant le monde. Le monde a été créé dans le berceau de la tshuva. Pourquoi? Parce que justement, Hachem a créé un monde dans lequel il y a une chance qui est donnée aux hommes, qui est que leurs actes ne sont pas définitifs. C'est-à-dire que tu peux toujours, à tête reposée, réfléchir, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as fait? Des fois, tu l'as fait dans la précipitation. Tu l'as fait parce que tu étais dans tel et tel état de colère, de fatigue, etc. Bien, à tête reposée, tu peux réfléchir. Peut-être tu as même pris du recul Et tu vas pouvoir modifier ce que tu as fait. C'est ça la puissance de la tshuva. On peut revenir sur ce qu'on a fait et le modifier pour transformer, faire en sorte que quelque chose se transforme, qui était une avéra, et ça devient maintenant une mitzvah. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus puissant, de plus extraordinaire que ça? Comment c'est possible, une chose pareille? Donc, ça, c'est à partir du moment où l'homme, celui qui va bénéficier de la bracha, est un peu l'artisan de cette bracha. Il y est pour quelque chose. Un peu comme ce que je vous avais expliqué, pourquoi Moshe Rabbeinu avait ajouté un jour dans la préparation pour le Kabbalat Torah, pour que les Bnei Israël ne soient pas seulement du côté de celui qui reçoit, mais qu'ils soient aussi du côté de celui qui donne. Donc ils se donnent les choses. Hachem nous donne la chance, en quelque sorte, de nous donner nous-mêmes les choses. Pas la totalité, bien sûr. Ça reste toujours que c'est Hachem qui nous a permis de nous mettre, qui nous a mis dans une situation comme celle-là. Mais, c'est-à-dire, on n'est pas dans une enfance permanente. Il y a un moment où tu peux devenir adulte. Tu dois devenir adulte. Donc, ça commence déjà à ce moment-là. On construit le clan d'Israël. On est à l'époque des Avot. Ça se construit maintenant. D'accord? On est en train de construire le passage de la deuxième à la troisième génération des Avot. Alors, c'est ça les chevreaux qu'il doit amener. Mais alors, Rivka, elle donne à comprendre à Yaakov qu'il va falloir se faire passer pour Esav. Mais Yaakov dit, mais c'est pas possible. L'apparence immédiate, on voit tout de suite que je ne suis pas Esav. Esav, il est poilu et moi je suis complètement glabre. Alors c'est quelque chose au niveau de l'apparence. Au premier coup d'œil, on va voir ça. Ah, Yitzhak est aveugle. Oh, mais il va me toucher, il va me dire, rapproche-toi, il va tout de suite sentir. Il va me tenir les bras, les mains, et ça y est, il aura compris que je ne suis pas, c'est pas Esav qui est devant lui. Alors, en fait, personne ne pense, un seul instant, je pense, qu'on puisse tromper Yitzhak en mettant des peaux de bélier, ou je sais pas comment ça s'appelle, en les cousant même sur la peau de. Est-ce qu'on peut penser vraiment que Yitzhak va se laisser avoir avec ça? Alors le Midrash, quand Yaakov lui dit, mon frère Esav est poilu, alors ça, le Midrash dit, il faut entendre, c'est un homme démoniaque. C'est pas vraiment, c'est plus qu'un homme en quelque sorte. C'est un démon. Il amène un passouk du Navi qui dit que, qui parle d'une situation tout à fait démoniaque en fait, où les choses vont être complètement changées. Il dit, mais moi, je suis chalak. Mais le mot chalak, Chet Lamed Kouf. Maintenant, on peut le lire Chelek et dire que Yitzhak, dire que Yaakov, Il est un chélek. Il est le chélek d'Hachem. Je suis la part d'Hachem. C'est une des expressions qui sont standards pour le clan Israël. Donc, ça commence déjà chez Yaakov. Ce n'est pas une histoire de poil. C'est une histoire de. Essav, il est du côté du démon, si on peut parler comme ça. Et Yaakov dit, moi je suis du côté d'Hachem. On n'a rien à voir. C'est-à-dire, le Midrash dit quelque chose d'assez terrible. Il dit, comme deux hommes, l'un hirsute et l'autre chauve. Ils sont tous les deux debout au bord d'une aire de battage, où on bat le blé. Il y a la balle qui s'élève. Ça s'en mêle dans les cheveux de l'hirsute. Il y en a une autre, elle se pose aussi sur la tête du chauve, mais elle est posée sur la patinoire, là, sur la tête du chauve. Et donc, de la main, il peut l'écarter. Il a les moyens de l'écarter, tandis que le hirsute, c'est dans ses cheveux, c'est devenu une partie de lui-même. Il ne peut pas l'écarter. Alors, le Midrash traduit Essav l'inique. Il se vautre dans des crimes pendant toute l'année. Mais il n'a rien pour expier. Il n'y a pas de processus de pour expier la faute. Yaakov, même s'il s'est vautré, exactement la même chose. Exactement comme à la sortie d'Égypte. Où les anges disent à Hachem, pourquoi tu sors les Juifs là? Ceux-là sont idolâtres et ceux-là aussi sont idolâtres. Pourquoi tu sors les uns et tu noies les autres? Yaakov, s'il s'est vautré dans les crimes toute l'année, il a le jour de Kippour pour expier. Hachem a fait en sorte qu'on puisse expier. Ça veut dire que le futur est toujours ouvert. C'est cette même idée que avec le Corban Tamid, qu'Hachem nous a imposé de lui fournir tous les jours, tous les matins et tous les soirs, un Corban. Donc, qu'Hachem présente comme étant l'Achmi, c'est mon pain. Vous me devez me donner ça. Ça a l'air d'être, ouais, c'est un dieu qui demande des trucs, quoi. Et qu'est-ce que disent Chazal? Ils disent que quand tu amènes le Corban Tamid du matin, ça nettoie toutes les fautes de la nuit. Ça veut dire que ça te donne une page blanche pour la journée. Quand tu amènes le Corban Tamid de la fin de l'après-midi, ça te donne une page blanche pour la nuit. On a tous les jours deux pages blanches. Et une fois par année, un nettoyage complet, Kippour. Donc la possibilité de construire un nouveau futur. C'est ça être la part d'Hachem. Hachem, c'est la vie, c'est ce qui donne la vie. On est la part d'Hachem, on est pleinement vivant, toujours. C'est-à-dire qu'on a tous les jours la possibilité d'inventer une nouvelle journée, d'inventer une nouvelle nuit. Bien sûr que ça ne veut pas dire que si vous avez tué votre voisin pendant la nuit, le matin, vous pouvez faire comme si de rien n'était, c'est pas tout à fait ça. Mais pour les fautes standards, c'est nettoyer. Alors, il y a un enseignement de ce Rabbi Tzrak dont les notes disent, ils disent que la parabole est inadéquate, le sens est obscur. Je ne sais pas vraiment exactement qu'est-ce qu'il faut entendre ici dans ce Rabbi Tzrak. Il dit la chose, je vous le lis quand même. Ni l'un ni l'autre de la figure et du figuré ne congruent. Mais le bélier, le séhir, c'est-à-dire Essav. Yaakov dit, vois, mon frère Essav, il est Ish Saïr, il est poilu, mais il va emporter sur lui toutes les fautes toutes leurs fautes, en fait. Avonotam. Avonot, âme. Les fautes de l'homme simple. Avonotam. Les avonot de Yaakov. Yaakov, c'est un ish tam. Avonotam. Les fautes du tam. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que ça a l'air de présenter les choses comme si, effectivement, Essav, il va emporter toutes les fautes du clan Israël. Et donc, il va être chargé, comme on dit, de tous les péchés d'Israël. Et on va le désintégrer. Qu'est-ce que ça fait exactement dans cette histoire? Ça veut dire que, à la fin, Essav va jouer un nouveau rôle, un rôle fondamental, mais pas celui qu'il aurait pu jouer de façon constructive, comme on l'a dit jusqu'à présent. Il aurait pu, que Yitzhak le voulait, effectivement. Et en fait, il pouvait vraiment le faire. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu le faire. Et du coup, il va être fautif. Il va porter les fautes. Comme si, d'une certaine manière, si Jacob a fauté, quelque part, il y est pour quelque chose. Ils savent. Parce que ça a obligé, il a obligé Jacob à jouer aussi un peu le rôle du Esav. Puisque Esav n'était pas là et que il était fondamental qu'il y ait de l'Essav dans le processus de réparation du monde, de construction du monde. En fait, quand on dit que, je répète que Essav aurait pu, il aurait pu, d'une certaine manière, il aurait pu le faire tout seul, il aurait pu bénéficier de l'aide de Yaakov, mais Yaakov a refusé de l'aider. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très net de la part de Yaakov, puisque Chazal dit que quand Yaakov a empêché Dina de devenir la femme de Esav, donc il a caché Dina pour que Esav ne la voie pas et qu'il ne la demande pas en mariage, Chazal reproche à Yaakov cette démarche. Parce qu'ils disent que Dina aurait pu faire tchouva à Essav. Parce que Dina, vous savez bien que, on le verra plus tard, mais vous savez déjà que Dina et Yosef, c'est un peu la même chose. C'est les deux qui naissent, l'une chez Léa, l'autre chez Rachel, alors que c'était inversé avant. Et que, de la même manière que Yaakov Avinu, quand Quand Yosef est né, alors Jacob a dit, maintenant je peux partir de chez Laban, parce que quand je vais partir de chez Laban, je vais devoir affronter Ésav. Avec Yosef, j'ai de quoi affronter Ésav. Et si Yosef le peut, alors Dina, qui est pratiquement la même chose que Yosef, mais du côté féminin, elle aurait pu, de façon féminine, pas de la façon de Yosef, elle aurait pu influencer Esav, il aurait pu faire Tchouva. Alors évidemment, l'histoire aurait été complètement différente, mais Yaakov n'a pas voulu. Et les Chazal sont pas très contents de cette démarche, enfin de ce refus de Yaakov. Alors Yaakov a dit à sa mère, peut-être mon père me tâtera-t-il, et il va voir que je suis un imposteur, je serai à ses yeux comme un métatéa, un roué, ils ont traduit, comme un roublard, comme un menteur. Et dans metatea, il y a aussi la même racine que toé, celui qui se trompe, qui s'égare, c'est-à-dire un idolâtre. Et ce que je vais récolter, c'est une malédiction, c'est pas une bracha, c'est une klala. Au point que même la bracha qu'il va me donner, qu'il doit me donner, c'est-à-dire la bracha de la spiritualité, ben, il va la refuser de me la donner s'il comprend que j'ai essayé de le rouler. Donc en fait, Yaakov veut pas y aller. Il dit, non seulement ça, toutes les chances de pas marcher, mais si ça marche pas, ça va être très grave pour moi. Et sa mère, elle lui répond, que ta malédiction vienne sur moi, mon fils. Alors je ne sais pas si on peut prendre la malédiction de quelqu'un. Le Midrash dit, Adam fauta, mais n'est-ce pas sa mère qui fut maudite à sa place? Il a fait une faute. Mais au lieu de maudire Adam, Adam n'a pas été maudit, mais qu'est-ce qui a été maudit? La terre. La terre, c'est Adama. C'est la mère de Adam. Elle sera maudite à cause de toi. Donc, lui, Rav Abba Kana, il dit, c'est normal que la mère soit maudite à cause du fils. Donc quand elle dit que la malédiction vienne sur moi, semble-t-il, c'est conforme à ce qu'Hachem lui-même a dit. Donc, de même que Adam, c'est sa mère qui a pris la clala, que ta malédiction vienne sur moi, comme pour Adam. Et Rav Yitzhak qui traduit ça en disant, c'est à moi d'entrer et de lui dire, Yaakov est un tzaddik, il est injuste, et Esav est un scélérat. J'irai corriger ce que Yitzhak voudra dire et je mettrai les choses au clair. Si elle peut le dire à ce moment-là, pourquoi elle ne va pas le dire tout de suite? On a dit qu'elle ne peut pas lui dire ce qu'elle sait parce que c'est de la nevoie. Mais quand Yaakov risque de recevoir une klala, là, du coup, elle s'est permis. C'est un cas de force majeure, quelque part. On va être obligé de parler. Alors, le Midrash dit que, OK, il est allé au Tson, il a pris les chevreaux, il les a amenés à sa mère. Et le Midrash dit, contraint, abattu, en larmes. Le Gaon de Vilna, il dit que quand Rivka a dit à Yaakov, Alai qui l'a béni, sur moi ta malédiction, mon fils, le Gaon il dit qu'il faut lire autrement. Il dit pas du tout que elle voulait dire, c'est sur moi la malédiction. Elle voulait lui dire qu'il n'y aura pas de malédiction. Parce que ta malédiction, c'est-à-dire les problèmes graves que tu devras confronter, ils sont alaï, c'est-à-dire Aïn Lamed Yud. Aïn comme Esav, Lamed comme Lavan et Yud comme Yosef. Tu vas avoir trois problèmes. Tu n'auras pas de problème avec ton père. Le Yud de alaï, c'est pas Yitzhak, c'est Yosef. Donc elle lui dit, c'est pas qu'elle dit je prends la malédiction sur moi. Elle lui dit, il n'y a pas, tu n'auras pas de malédiction. Ça veut dire ton père va comprendre, il va pas te maudire. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, dans le déguisement, il y a un manteau qui va jouer un rôle fondamental. Rivka a pris les habits précieux, marqués à Hamoudot, d'Essav, son grand-fils. C'est intéressant de... Est-ce que la Torah, elle est tout à coup... Elle vient nous dire que Esav, c'était le grand-fils de Rivka. On fait combien de paragraphes, on le sait. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici, la Torah, en disant que Esav est son grand-fils? Alors, on avait vu plus haut que quand Yitzhak a appelé Esav, là-bas c'est marqué, il a appelé Esav son grand-fils. C'est pas marqué, il a appelé Esav son Bechor, mais son grand-fils. Et du coup, le Midrash dit, Rivka aussi, elle va appeler Esav son grand-fils, ici. Et du coup, le Midrash, il amène un pasouk du Navi Ovadia, le prophète. Le prophète qui est un converti issu de Édom, d'Ésav, un descendant d'Ésav, qui est converti, qui est l'intendant du roi Achav, qui est celui qui a caché 2 fois 50 prophètes au moment où Achav et sa bonne femme voulaient tuer tous les prophètes. Il a vécu à l'époque de Eliyahu HaNavi, le prophète Élie. Et Ovadia, dont nous n'avons qu'un seul chapitre, d'accord, il fait partie de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, pas parce qu'ils sont plus petits que les autres, mais parce que seulement on a peu de documents d'eux. Pas comparable aux dizaines de chapitres qu'on a de Yeshaya, d'Ermia, de Hezkel. Là, on en a beaucoup moins. Celui dont on a le moins, c'est Ovadia. Et lui, il a prophétisé sur Esav. C'est lui qui a dit dans sa prophétie, Hachem dit que Esav, il est petit. Vous, vous dites qu'il est grand, moi je dis qu'il est petit. dit Hachem. Mais ici, elle dit qu'il est son grand-fils. Pourquoi elle mentionne qu'il est grand? Parce que il a convoité Pourquoi on a dit ce mot de il a été chomed? Parce qu'on a dit que les vêtements, ils étaient chamoudot. Donc c'est une espèce de jeu de mots entre chamoudot et chomed. Il a convoité, en fait, il les a volés à Nimrod. Or, Nimrod, ce vêtement-là, c'était Nimrod qui l'avait. Je vous rappelle que Nimrod, il est présenté dans la Torah comme étant un grand chasseur. Esav aussi est un grand chasseur. En fait, il s'agit de ce manteau-là. Ce manteau, c'est un vêtement qu'Hachem a fait à Adam Harishon. Quand Adam et Chava se sont retrouvés nus, Hachem leur a fait des vêtements. Ce vêtement-là, c'était un vêtement qui avait un parfum de Gan Eden. Et d'ailleurs, quand Yitzhak va rentrer chez Yaakov va rentrer chez Esav, Esav va dire un parfum de Gan Eden. Donc vous voyez, quand Yitzhak entend, il ressent un parfum de Gan Eden. Ça lui met pas la puce à l'oreille. Ça peut pas être Essav. Même si on pense, comme je pense effectivement, que Yitzhak savait, il va se dire, il y a un parfum. Il sait pas encore le Gan Eden, mais il y a un parfum de Gan Eden. Il n'est pas perdu, ce fils. En fait, Nimrod avait volé ce vêtement, qui était le vêtement de Adam. Et Esav l'a volé au voleur. C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash ramène un passouk dans Michelet qui dit, le méchant convoite ce que prennent les méchants. Alors ce vêtement-là, qui appartient à Esav, le passouk dit qu'elle gardait à la maison. Elle gardait un vêtement de son fils. Elle le garde à la maison. Alors, le Midrash dit un peu plus bas, il dit, mais combien de femmes n'avait-il pas épousées? Il avait une maison, il y avait plein de femmes qui auraient dû lui garder ses vêtements. Il connaissait bien les mœurs de ces femmes. Il n'avait pas d'illusion, quelque chose de vraiment précieux, quelque chose qui est chamoud, précieux, il va pas le laisser aux mains de ces Cananéennes. Donc il le laisse chez sa mère. Là, pour le coup, elle va prendre ce vêtement. C'est un vêtement royal. Esav, quand il servait son père, il mettait ce vêtement-là. Il servait son père, la mitzvah de Kiboudav chez Esav. La Gemara dit, ici le Midrash rapporte, même chose, que Rabbi Shimon ben Gamliel dit, toute ma vie j'ai servi mon père. Son père était un personnage très important, ainsi. Son fils l'a servi. Il dit pourtant, je n'ai guère accompli le centième de ce que Ésaü fit pour le sien. Je servais mon père dans des habits usagés. Mais quand je sortais, je mettais des habits propres. Ésaü, lui, il portait des habits de roi pour servir son père. Parce qu'il pensait que l'honneur de mon père exige qu'on se vête comme un roi. Ce père dont il espère qu'il va bientôt mourir pour qu'il puisse tuer son frère, mais le service qu'il accordait à son père, service royal, alors cette contradiction apparente, le Midrash l'explicite. Abba Kana, c'est celui qui avait dit que Adam avait fauté et que c'est sa mère, la terre, qui avait été maudite. C'est lui qui raconte. Dans le village de Khataya, il y avait un groupe de pirates, des bandits, qui avaient l'habitude de ripailler dans la synagogue chaque Erev Shabbat. Un jour qu'ils mangeaient, ils prirent des os et les jetèrent sur un instituteur. Il y avait un rebbe là-bas. Ils l'ont jeté les os. Mépris. Mais quand l'un d'entre eux fut moribond, ses amis lui demandèrent à qui il souhaitait laisser la garde de son fils. Pensez à lequel d'entre nous tu vas confier ton fils? Il a répondu à l'instituteur. Alors ils s'exclamèrent, il a tant d'amis et c'est l'instituteur qu'il désigne. C'est qu'ils savaient bien leurs mœurs. De même, ici aussi, combien de femmes n'avait-il pas épousées et savent? Et c'était sa mère qui gardait ses habits. C'est qu'ils savaient bien leurs mœurs, ils savaient bien à qui il avait affaire. Donc, Rivka va prendre ce vêtement et elle va revêtir Yaakov de ce vêtement. Du point de vue du vêtement, c'était bien. Mais les mains, comme oui, mais à Kol Kol Yaakov. Ça, on va revenir là-dessus, mais je crois que ce sera la semaine prochaine. On s'arrête là.
Merci, Rob.